J'avais à cœur, j'avais envie ce matin de vous parler des bienfaits de la foi. Et vous allez voir avec moi que, évidemment, je vous invite à réfléchir là-dessus, c'est qu'il m'apparaît un point important, bien évidemment. Gardez ce texte en mémoire, c'est pas celui qu'on va lire maintenant, d'accord? Après tout, vous l'avez à l'écran. On va lire une histoire qui se trouve dans le deuxième livre des Rois. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, et je voudrais faire une lecture à partir du verset 15, je vous résumerai ce qui est arrivé à cet homme, mais là j'en viens au point le plus important de cette histoire. Nous parlerons d'un homme qui est un chef d'armée du roi de Syrie, jouissant de la faveur de son maître et d'une grande considération. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. C'est l'introduction de ce texte. Cet homme malade va chercher la guérison et ne va pas l'obtenir. Quand on est malade, on veut tous être guéri. Et ce n'est pas toujours évident de l'être. On n'a pas toujours les outils, les moyens pour cela. Et dans ce cas précis, il va y avoir un événement qui va changer sa vie. Et cet événement est le fait que dans sa propre maison, il y a une petite fille, une petite esclave, qui, elle, n'est pas syrienne, mais a été emmenée esclave lors d'une précédente bataille. Cette petite fille va s'adresser à l'épouse de cet homme, Naaman, et va lui dire ces quelques mots. « Si mon maître, si mon seigneur, était auprès du prophète qui est en Israël, en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Vous imaginez ce que ça a produit, cette rencontre avec ce message a provoqué une réaction dans le cœur de cet homme, de cette famille. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour avoir la possibilité d'aller en Israël et d'aller rencontrer cet homme dont on avait parlé. Sauf que, vous allez le voir avec moi tout à l'heure, on n'a pas été directement vers le prophète, on a été vers le roi d'Israël qui ne comprenait pas qu'est-ce que lui pouvait faire. Il a été orienté ensuite vers le prophète Élisée. Et le prophète Élisée va lui expliquer comment il pouvait être guéri. Il lui suffisait simplement d'aller se plonger 7 fois dans les eaux du fleuve du Jourdain et à la 7e fois, sortant de l'eau, il serait totalement guéri de sa lèpre, totalement purifié. Ce qui est inexplicable. On a beau dire, on a beau essayer de comprendre, ce sont là quelques-uns de ces nombreux miracles que la Bible rapporte. Alors évidemment, pour cet homme, un grand défi, il va devoir s'exécuter, il va devoir le faire. Mais il faut le croire pour le faire. Je pense que vous, comme beaucoup, vous ne faites pas des choses dans lesquelles vous ne croyez pas. Et on ne vous obligera pas à faire quelque chose si vous n'y croyez pas. Et cet homme est un petit peu perturbé parce qu'il n'y croit pas vraiment. Il n'est absolument pas persuadé que ça peut changer quelque chose. Ce n'est pas d'aller se plonger dans une rivière, quelle qu'elle soit, dans un lac, quel qu'il soit, qui peut guérir une affection physique. Ce n'est pas possible. On n'est pas sur un psoriasis, on n'est pas sur un peu d'eczéma, mais on ne va pas faire une cure thermale. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. Il est lépreux, il mourra de sa lèpre. Un jour ou l'autre, il mourra. Il n'y avait pas de médication, il n'y avait pas de traitement, impossible de guérir. Mais comment s'en sortir? Et puis finalement, conseillé par quelques-uns de ses amis qu'il avait accompagnés jusque-là, il va répondre à cette demande. On va l'interpeller en lui disant, mais si on t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ce à quoi il répondra, oui, évidemment. Eh bien, puisque la chose ne semble pas difficile, pourquoi ne pas la tenter? Pourquoi ne pas la faire? La Bible dit qu'il est descendu ainsi dans les eaux du Jourdain. Il est dit au verset 14, c'est juste le verset qui précède ce que nous allons lire maintenant. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de cet homme. Il vient de loin. Je ne parle pas en distance, je parle dans sa tête. Il vient de très loin. Il était incroyant, il n'était pas particulièrement attaché aux croyances juives, loin s'en faut. Et on voit qu'il a manifesté son incrédulité, sa réserve, sa colère. Mais regardez ce qu'il vient de comprendre. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans la maison de Rimmon, c'était leur croyance, c'était leur pratique, leur religion, leur Dieu, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. Amen. » Je m'arrête sur ces 3 derniers mots. « Va en paix. » D'où le titre du message, « Les bienfaits de la foi. » Qu'est-ce que l'Évangile peut apporter dans un cœur? Qu'est-ce que l'Évangile peut donner? Il me semble que dans la vie de cet homme, comme dans la vie de tous, il y a toujours des bouleversements. Beaucoup pourraient vous rendre ce témoignage ce matin, que dans leur vie, des bouleversements, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments de tempête. Au Mexique, actuellement, ils ont eu peur de subir la plus grande tempête planétaire. Il semble que ce ne soit pas aussi violent. Des vents à 325 km/h. Vous essayez d'imaginer ce que ça représente? Il y a des avis de tempête, il y a des problèmes, des difficultés. Mais si dans la vie de cet homme, il y a eu énormément de bouleversements, un jour, il y a eu un changement. Et ça, ça fait toute la différence. Dans votre vie, il pourra toujours y avoir des bouleversements, mais je crois que ça n'est donné qu'une seule fois dans la vie à connaître un tel changement comme cet homme l'a connu et comme vous l'entendrez au travers des témoignages tout à l'heure. C'est sa rencontre avec le message. Cette petite fille qui dit, si tu vas dans mon pays, je connais quelqu'un qui a la puissance de te guérir de ta maladie incurable. C'est la rencontre avec le messager. Quand il s'approche du prophète Élisée, curiosité, le prophète Élisée sort même pas de la maison. Il envoie un messager. Si on actualise cela, on imagine qu'il lui aurait envoyé un texto en lui disant, va te plonger cette fois dans le fleuve. C'est même pas déplacé. Il n'a même pas été en personne accueillir ce général d'armée qui arrive. Donc, imaginez la réaction, très vexé par l'attitude du messager. Mais il va comprendre pourquoi. Et sa rencontre avec Dieu, dans le fond, c'était la finalité. Cette expérience va faire en sorte que cet événement a tout changé dans la vie de cet homme. Je voudrais qu'en quittant ce lieu tout à l'heure, dans vos cœurs, vous qui êtes croyants, vos convictions soient encore plus affermies. Je voudrais que dans vos cœurs, vous qui appartenez à Dieu depuis des dizaines d'années, vous sortiez avec la paix de Dieu, avec la paix de Dieu. Et vous qui ne connaissez pas grand-chose de ce que Dieu est capable de faire dans votre vie, que vous entendiez simplement cet encouragement, va en paix. Dieu est là pour vous bénir, il est là pour vous accorder sa grâce. Alors qu'est-ce que la foi en Dieu révèle? Et qu'est-ce que la foi en Dieu peut enlever dans nos vies? Elle révèle certaines choses à nos vies et elle nous enlève d'autres choses. Concernant cet homme, Naaman, je parlerai d'incapacité. Et je mettrai en parallèle l'incapacité, mais je mettrai en parallèle un texte dans les évangiles. Écoutez-moi, dans les évangiles, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, ne vous inquiétez pas, il y a une garderie si vous voulez, hein. On va vous indiquer tout cela. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, il est question d'une histoire qui me fait penser à l'histoire de ce général. Cet homme, je vous ai dit qu'il est malheureusement malade, de façon incurable. C'est terrible. On a du mal à se représenter cela. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, il nous est dit qu'une femme qui souffrait depuis des années, depuis 12 ans, elle souffrait terriblement depuis 12 ans, atteinte d'une perte de sang. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de tous ceux vers qui elle avait été pour trouver solution à son mal. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. J'aimerais vous parler parce qu'il me semble que c'est une réalité pour chacun d'entre nous, de nos incapacités. On n'est pas capable de tout. Si seulement on était tout-puissant, ce serait pas mal. Hein? On réglerait la famine dans le monde, on réglerait les drames ici, on calmerait les souffrances ici et ailleurs. Mais regardez, on est quoi ? Un petit rien, pas grand-chose. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Naaman ne peut pas se guérir tout seul. Cette femme n'a pas trouvé la guérison toute seule. Elle avait de l'argent, elle avait des moyens, comme lui en avait. Mais ils ont certainement été vers les meilleurs. Ils ont été vers ceux qui étaient à la pointe de la technologie, de l'époque, pour trouver une solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Cet homme, cette femme, dépense, espère. On est prêt à tout dépenser parce qu'on est prêt à tout espérer, évidemment. Et la solution, c'est que finalement, on perd presque tout. Finalement, pour cet homme et pour cette femme, il leur restait un point commun, la vie. Et nous avons la chance de vivre aujourd'hui. Vous avez la chance de vivre. Qu'allez-vous faire de votre avenir ? Il est un petit peu dans votre main. Malheureusement, vous ne le savez pas totalement. Il y a des événements qui viennent croiser notre route. Malheureusement, l'actualité française nous a rattrapés ces deux derniers jours. On part, on se prépare à une belle journée, et puis le drame, on ne survit pas. Il y a des événements qui viennent croiser notre route. Que voulez-vous faire par rapport à cela ? Alors, les bienfaits de la foi en Dieu nous rappellent qu'en dépit de ce que l'on est, parce que cet homme avait du prestige, l'autorité il en avait, de la richesse il en avait quand même, il était revêtu de toutes ces choses-là, mais il ne devait pas oublier qu'il y avait un cancer qui rongeait non pas son corps, même si dans la réalité c'est presque ça, mais il y avait une maladie intérieure, un cancer qui rongeait son âme. C'est ce que la Bible appelle la condamnation du péché. Et on ne peut pas s'exonérer de cela. Vous savez qu'un jour, on quittera tous la terre, à des moments différents, certainement, dans des circonstances différentes, évidemment. Et puis, il faudra aller dans l'éternité. Et cette éternité est réelle. Cette éternité existe. Qu'en sera-t-il ? Pour l'enfant de Dieu, pour le croyant, et si j'interrogeais beaucoup d'entre nous ce matin, ils vous diraient certainement que j'ai fait la paix, qu'ils ont fait la paix avec Dieu, et qu'ils savent qu'une place leur est réservée dans le ciel. Et ces trois sœurs qui vont s'engager avec Dieu n'ont un jour réalisé que oui, c'était vrai, une place leur était réservée dans le ciel. Sauf qu'il n'y a pas un fabricant sur la terre qui a créé l'échelle qui permet d'y aller directement d'ici jusque là-haut. Et ce n'est pas à échelle humaine, c'est à révélation spirituelle. C'est à dimension spirituelle que l'on peut goûter à cette grâce-là. Le péché a détruit, pour la plupart d'entre nous, nos facultés de conscience. La foi met en avant nos incapacités, met en avant nos faiblesses, met en avant nos fragilités. Savez-vous que le péché a toujours entravé la liberté des hommes ? Qui plus est de ceux qui sont non-croyants ? J'aimerais vous rassurer, vous savez que quand on devient chrétien, enfin, je ne sais pas si ça vous rassure, quand on devient chrétien, malheureusement, on ne devient pas parfait. Vous l'aviez cru, hein ? Vous avez dit, ben, je ne comprends pas. Depuis que tu es devenu chrétienne, tu devrais être parfait. Ah non, personne ne sera parfait. Mais la différence, c'est qu'on tend vers la perfection. On sait comment atteindre ce qui est perfectible. On voit où il y a des carences, on voit où il y a des problèmes, on voit ce qui ne fonctionne pas. Et on peut toujours aller auprès de Dieu en lui demandant, viens m'aider. Et là, il répond à la prière. Ce qui fait que la vie change. La vie change totalement. C'est une réalité. Et ce n'est pas un effort volontaire. Vous imaginez cet homme, Naaman, dire tous les matins, allez, je ne suis plus lépreux. Hein. Allez, c'est fini, je ne suis plus malade. Hein. Est-ce que ça aurait suffi ? Oui ou non ? Ce n'est pas possible. Il ne suffit pas de se le dire. Il ne suffit pas d'essayer de s'en persuader. Mais cette femme malade depuis 12 ans, mais elle aurait tout tenté. Mais à un moment donné, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas. Je voudrais vous montrer qu'il y a un parallèle, parce que la foi peut venir ouvrir une nouvelle page dans votre vie. Et comme elle l'a fait pour ceux qui s'engagent avec Dieu. Qu'est-ce que la foi viendrait nous enlever par ailleurs ? Certainement éclairant nos mauvais choix, certainement nos mauvaises dispositions, ou en tous les cas, nos mauvais penchants. Heureusement que la foi vient faire cela, enlever nos mauvais penchants. Imaginez cet homme, Naaman. On lui dit, va dans mon pays, je connais quelqu'un, tu trouveras la solution. Premièrement, il y va, il se trompe de personne. Si vous n'allez pas frapper à la bonne porte, elle ne va pas s'ouvrir comme vous le voulez. Certains ont dit, j'ai prié 10 fois, Dieu m'a jamais entendu. Est-ce que vous avez prié dans la bonne direction ? Et là, je ne parle pas géographiquement. Est-ce que vous vous avez frappé à la bonne porte? Parce que si, dans certaines maisons, on a muré des pièces, on a laissé la porte, c'est très étrange, hein? Mais si vous ouvrez la porte, il y a un mur. Vous ne pouvez pas y aller. Ce n'est pas possible. Et quelquefois, on a frappé à des portes. Et on n'a pas compris que Dieu ne répondait pas. Mais si la porte est murée, évidemment, vous n'aurez pas de réponse. On a tous à espérer et à croire que Dieu est un Dieu accessible. Cet homme, quand le prophète va lui dire « va te plonger », va même pas se déplacer, il est furieux. Il est furieux. Il est en colère. D'ailleurs, je ne l'ai pas lu, mais je peux vous le dire. Voilà quelle va être sa réaction. « Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. » Voilà les fleuves de Damas, Labana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que ces eaux d'Israël? Et il s'en repartait avec fureur. Pourquoi il est en colère? Parce qu'il a été vexé. Parce que ça n'a pas été à son avantage. Parce qu'il aurait bien aimé qu'on fasse une fête en son honneur. C'est de la diplomatie. On reçoit un gradé, on ne veut pas se mettre en colère, on ne veut pas se fâcher avec cette nation. Alors, les grands honneurs, tapis rouge, etc. Mais le problème, c'est qu'il est lépreux. Vous pouvez dérouler un tapis rouge. S'il meurt, ça ne sert à rien. Le problème, c'est que cet homme, à cause de ce qu'il est, de sa position, de son rang, etc., il est imbu de sa personne, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de réaliser que finalement, il ne vaut pas plus que les autres. Et il est vrai que quelquefois, les difficultés nous ont ramenés à cette vérité, n'est-ce pas? Qu'on n'était pas meilleur que les autres. Combien de fois ai-je entendu mes personnes me dire « vous inquiétez pas, je vais m'en sortir ». On voudrait que ça marche. On voudrait espérer. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et cet homme n'aura son salut qu'à la présence d'esprit de ces fameux serviteurs qui lui diront « Mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, oui, oui. » Alors fais, c'est si simple, c'est si simple. J'en reviens à cette femme qui, elle, a tout perdu, elle n'a aucun avenir, et dans sa détresse, eh bien, elle s'humilie. Cette femme, ce n'est pas celle dont je vous ai parlé, c'en est une autre, qui un jour va rentrer dans une maison, elle n'est pas invitée. Mais dans cette maison, Jésus a été invité pour partager un repas. On est dans la maison d'un homme très religieux, très pratiquant. Et la porte est ouverte et cette femme rentre. La Bible dit de cette femme que c'est une pécheresse. Ça veut tout dire. Toujours est-il qu'elle a conscience de son état. La Bible dit qu'elle ne dit pas un mot. Elle se met un petit peu de côté, derrière. Vous lirez le texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. Elle se met aux pieds de Jésus et elle va pleurer, pleurer, pleurer. Elle va répandre sa souffrance, sa peine. Combien de mauvais choix, combien d'erreurs, combien d'échecs. Si on devait tous les aligner, je pense qu'il y en a quelques-uns quand même. Et puis quand on sait qu'on a mal fait, on n'aurait pas dû agir de telle manière, on aimerait réparer. Mais comment vous voulez faire? Cette femme a tout perdu, cette femme est stigmatisée, cette femme est une pécheresse, dans la ville on la connaît. Ça peut sous-entendre prostituée. Cette femme est une femme qui a raté, on imagine, raté pas mal de choses, qui a subi pas mal de choses. La vie, c'est pas une construction unique, c'est un amalgame. Il y a ce que l'on fait, il y a soi-même qui mettons les pieds dans le tapis, et puis il y a toutes les pierres que l'on a reçues sur le chemin de la vie. Donc on sait que c'est quand même pas une construction facile. Pauvre femme, ben, elle sait pas quoi faire. Mais par contre, elle aimerait tellement, entre guillemets, se racheter. Alors elle ne trouve qu'une solution. Elle va aux pieds de Jésus, elle pleure, elle finit par essuyer même les pieds, par mouiller les pieds de Jésus de ses larmes. Alors elle les essuie avec ses cheveux, elle n'a rien de plus à y mettre. Mais elle avait amené du parfum et elle va répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Cet homme qui a invité Jésus, cet homme religieux, il est dans tous ses états. Il est vexé, il est en colère, il ne comprend pas. Et il pense en lui-même, il dit, mais c'est pas possible, Jésus se laisse toucher par cette femme, qui est une femme souillée, qui est une femme pécheresse, elle est sale, mais on aurait dû la mettre dehors, cet homme n'ose pas, évidemment, mais Jésus lui-même aurait dû couper court à cette espèce de cinéma, de théâtre, il aurait dû la mettre dehors. Et Jésus va lui raconter une petite histoire, écoutez bien. Deux personnes avaient une dette, l'un devait une petite dette, l'autre une dette colossale. aucun des deux ne pouvait rembourser. À petit budget, une petite dette, ça dépasse évidemment les compétences. Et à gros budget, grosse dette, on était dans le même profil. Voilà que le banquier décide de dire « vous ne me devez plus rien ». Il n'y a plus de dette. La personne qui ne devait pas grand-chose, elle va être heureuse. Heureuse, tant et plus. Et vous l'imaginez. Mais la personne qui devait beaucoup, elle était encore plus heureuse. Et Jésus va dire à cet homme religieux, à ton avis, lequel sera le plus reconnaissant, celui qui devait 50 euros ou celui qui en devait 500? Et il va dire, celui qui en devait 500. T'as bien répondu. C'est logique, hein? Non? C'est logique. T'as bien répondu. Et il va dire, tu vois, je suis rentré dans ta maison, t'as rien manifesté à mon égard. Tu m'as même pas donné un bassin, à l'époque ça se faisait pour que je lave mes pieds, parce qu'on marchait souvent pieds nus avec des sandales ouvertes, donc le sable, etc., pour se mettre à l'aise. Cette femme, elle a lavé quasiment mes pieds avec ses larmes. Tu m'as même pas donné un linge pour justement essuyer mes pieds une fois que je les aurais trempés. Elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Et elle a mis du parfum. J'ai l'impression que cette femme, elle a donné tout ce qu'elle pouvait, comme si elle comprenait que la dette qu'elle réclamait, dont elle voulait se faire pardonner, était énorme. Et qu'elle avait le sentiment d'être pardonnée. C'est comme si elle avait le sentiment, la paix, qui venait habiter son cœur d'une manière concrète. Elle avait ce sentiment que, finalement, Dieu l'aimait quand même. Alors ça a justifié cet engagement extraordinaire. Et Jésus va reprocher à cet homme la dureté de son cœur. Il va lui dire, tu vois, la différence entre elle et toi, c'est que tous les deux, vous êtes des pécheurs. Et on ne parle pas de quantité, on parle d'état. C'est un état, ce n'est pas une quantité. J'aime pas mal ceux qui pensent qu'il y a des péchés véniels et d'autres plus rudes quand même. Certains pensent et disent, vous savez, moi j'ai commis que des petits péchés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le petit, le grand, c'est le péché. On ne parle pas de quantité là, on ne parle pas de quantité. Finalement, lui est méprisant et il rejette la solution qu'on veut bien lui accorder, ça l'intéresse pas tellement, c'est assez surprenant d'ailleurs. Et puis, lui, il invite Jésus dans sa maison, va faire un bon repas, elle l'invite dans sa vie, finalement. On s'aperçoit que cet homme va juger Jésus et la femme de Jésus, il dira, mais il est prophète ou il n'est pas prophète? Et de cette femme, c'est une traînée, elle n'a rien à faire dans ma maison. Elle s'intéresse qu'à Jésus-Christ. Lui, il pense être bien vu, elle sera bien sauvée. Qu'est-ce que vous préférez, être bien vu ou être bien sauvé? Qu'est-ce que vous préférez, ouvrir votre maison en disant, regarde Jésus, j'ai dressé la table, elle est toute pour toi. Préférez pas ouvrir votre vie, votre cœur? Là, vous investissez, hein? Là, vous investissez. On n'est pas juste dans l'apparence, on va en profondeur. Et la vie chrétienne, c'est un plongeon extraordinaire dans des réalités spirituelles qui nous emmènent tellement loin, qui peuvent nous emmener tellement loin, tellement loin. Lui réalise même pas qu'il est en faillite spirituellement parlant. Elle l'a bien compris. Hein. Elle l'a bien compris. Alors, j'aimerais quand même insister, c'est pas ce qu'elle a fait qui va la délivrer, qui va la libérer. C'est ce qu'elle croit. La fin du texte, je ne l'ai pas lu, mais la fin du texte dit ceci, quand Jésus va reprendre cet homme, et c'est un encouragement pour cette femme, il va dire à cette femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Exactement la même expression qu'avec Naaman, exactement la même expression qu'avec cette femme atteinte de la perte de sang. Tous les trois ont été bénis, les derniers mots qu'ils entendront de la part du prophète ou de la part de Jésus, va en paix. Ils vont entendre la même chose, va en paix. Et moi, je peux vous dire que vous pouvez sortir de ce lieu et aller en paix. Amen. Si simplement votre foi est totalement fondée sur Jésus-Christ. Il est celui qui délivre, il est celui qui change les vies. C'est pas ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a cru, c'est pas ce que vous ferez qui vous prépare une place dans le ciel, c'est ce que vous croyez. Si vous n'y croyez pas, vous serez exaucé, vous n'irez pas. Mais à côté de ça, c'est l'enfer. Et moi, j'aimerais tellement que vous saisissiez la main tendue de Dieu. Ne pas se repentir, c'est ne pas reconnaître ses erreurs, c'est ne pas se décider, c'est faire tellement de mauvais choix. Alors la foi en Dieu va révéler ce que vous êtes, bien petit et bien fragile et faible. Mais la foi en Dieu va enlever de votre cœur cette propension à faire toujours de mauvais choix pour enfin faire de bons choix. Nos incapacités, nos mauvais choix, Seigneur les a pris. Je termine. Ma conclusion, c'est que la foi a la capacité de révéler nos faiblesses, la foi a la capacité d'enlever notre culpabilité et la foi produit la paix. Nos trois amies qui vont s'engager avec Dieu et dans quelques minutes, elles vont rendre témoignage les unes après les autres et puis on les baptisera à la suite les unes des autres. On a des parcours totalement différents, elles vont vous expliquer cela. Mais je remarque, au travers de textes de la Bible, qu'une même vérité demeure. Vous savez ce qu'a dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 27 ? Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Et tout ce que Dieu donne, ça surclasse ce que le monde propose. Vous vous souvenez de cette campagne publicitaire il y a quelque temps de quelqu'un qui allait louer une voiture et qui voulait être surclassé ? Et le monsieur lui dit, ben, c'est fait. Ah oui, c'était la bonne voiture qui surclassait. Bon, depuis, l'information les a rattrapés. La bonne voiture qui surclassait. L'évangile, la paix de Dieu, surclasse tout ce que vous pouvez trouver ici-bas. Dans la première épître de Pierre, et je le citais tout à l'heure avec cette présentation de Sinaï, je rappelais que l'eau du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors on baptise les gens dans l'eau. Parce que c'est biblique. C'est simplement parce que c'est biblique. Et en fait, on les plonge totalement, parce que même le mot baptême, ça veut dire immerger. Donc on les plonge totalement dans l'eau. Ils vont disparaître combien de temps ? Une demi-seconde. On ne va pas les laisser 10 minutes. Hein. Voilà, ils vont réapparaître. C'est une image. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Romains, on s'identifie à la mort de Jésus. Et on s'identifie à sa résurrection. Jésus a été crucifié pour nos fautes. Et tout ceci, elles en rendent témoignage. Tous ceux qui sont ici, qui ont un jour fait l'expérience, c'est bon de s'en souvenir à chaque fois qu'il y a des baptêmes, ont vécu cela aussi. Mort à soi-même, pardonne mes péchés. Et résurrection, parce que Dieu vous tend la main et vous dit « je te pardonne maintenant ». Comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, ses bien-aimés sortent du baptistère. Et on veut croire que derrière cela, ce n'est que l'image d'une vie nouvelle, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, hein, parce que ça, c'est déjà fait. Quand elles se sont adressées à Dieu et quand elles ont demandé pardon à Dieu, elles ont été purifiées. C'est le Seigneur qui purifie, ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas un geste qui purifie, c'est la foi en Jésus-Christ. Et elles ont été lavées, pardonnées et purifiées. Dans le livre des Actes des Apôtres, toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses. L'apôtre Pierre va prêcher le jour de la Pentecôte. Il va prêcher l'Évangile. Et une fois qu'il aura fini de prêcher, la Bible dit ceci, « Tous ceux qui étaient rassemblés eurent le cœur vivement touché. » Et ils dirent, « Que ferons-nous ? » Toujours les mêmes questions, mais toujours les mêmes réponses. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. La volonté de Dieu, c'est de sauver, bien évidemment. Et je conclurai avec ce texte qui apparaît encore. C'était le texte, vous vous en souvenez, qui était écrit au démarrage. Toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses. L'engagement satisfait la conscience et le cœur, évidemment. Mais c'est toujours les mêmes conséquences. L'apôtre Paul dira, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Vous qui allez vous engager avec Dieu, vous savez que dans cette salle, il y a des gens qui se sont engagés avec Dieu, qui ont fait comme vous il y a plus de 60 ans. Il y a plus de 60 ans. Bon, et on vit longtemps dans les Alpes. Hein. Ouais, ils sont costauds. Hein. Ouais. Certains se sont engagés tout jeunes. Certains se sont engagés à 15 ans, 18 ans, 20 ans. On a, il y a quelques années, célébré le centenaire d'une croyante. Elle était baptisée depuis les temps immémoriaux. La foi, ça ne s'effrite pas. Sauf si j'ai décidé que ça allait s'effriter. Dieu reste le même. Il ne bouge pas. Et tout cela pourrait vous rendre témoignage. J'ai trouvé la paix en Jésus-Christ. J'ai vraiment trouvé la paix. Alors ma prière, comme une bénédiction pour chacun d'entre vous, est issue du livre des Nombres. C'est Moïse qui a prononcé ces mots. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. La foi produit la paix. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, pour la première fois, on a appelé les croyants chrétiens. Ce n'est même pas les chrétiens qui ont déposé ça. Ce n'était pas un copyright, ce n'est pas eux qui l'ont déposé le mot. Ce sont même ceux qui ne croyaient pas, qui pour se moquer d'eux, ont dit « regardez-les ces gens-là, ils veulent imiter leur soi-disant Dieu, ils veulent faire comme leur Christ, ce sont des petits Christ. » C'était très, très moqueur. Et le mot petit Christ, c'est le mot chrétien. Eh bien, pour beaucoup, nous sommes fiers d'être chrétiens. Ce n'est pas une honte. Parce que quelqu'un dans le ciel n'a pas eu honte de nous, mais a accepté de nous aimer comme on était. Cet homme général qui va être guéri, il aurait pu être guéri sans se plonger cette fois dans les eaux du Jourdain, mais vous ne trouvez pas que c'est une belle image par rapport au baptême? Moi, je trouve que des siècles avant, que le baptême ne soit institué dans l'Église chrétienne par Jésus lui-même, il y avait déjà ces références-là. Et cette femme qui a été guérie de sa perte de sang, qui est inquiète parce qu'elle doit révéler son histoire devant tout le monde, Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guérie, va en paix. » Cet homme et cette autre femme qui était jugée par ce fameux religieux, l'un gardera ses complexes, sa méchanceté dans le cœur, il ne sera pas en paix. Mais une femme dans cette maison où Jésus était a trouvé la paix. Ce qui changera votre vie, c'est la rencontre avec le message. Et vous l'avez entendu, Jésus sauve encore aujourd'hui. C'est la rencontre avec le messager. C'est Jésus qui est venu expliquer l'œuvre de Dieu, l'œuvre du cœur de Dieu. Et puis c'est la rencontre, bien évidemment, avec Dieu. Tout cela vous conduira à vous présenter devant Dieu. Faites la paix avec Dieu et vous trouverez la paix de Dieu. Faites la paix avec Dieu et vous trouverez la paix de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner et prier et demander à Dieu sa grâce maintenant? Nous te demandons ta bénédiction, Seigneur. Nous te demandons ta grâce. Nous croyons en ta fidélité. Nous croyons en ta miséricorde. Nous, les chrétiens qui avons fait cette expérience il y a 5 ans, 5 mois, 50 ans, et peut-être davantage encore, nous sommes heureux d'être là et de rendre ce témoignage. Nous avons la paix avec toi. Quelles que soient les circonstances de la vie, parce que nous sommes croyants et nous n'échappons pas à la vie, à ses difficultés, chacun malheureusement connaît quelquefois des peines et des douleurs, mais nous restons pleins de confiance, parce que c'est vers toi que nos regards se sont tournés. Que ton nom soit béni pour ta bienveillance et ta grâce. Que ton nom soit béni pour ta fidélité. Nous comptons sur toi encore et nous te demandons de bénir ces instants qui suivent, de nous accorder ta grâce encore pendant ce temps de fête. Ta parole dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent sur la terre. Eh bien, on imagine la joie qu'il peut y avoir dans le ciel en ces instants et nous voulons partager cette joie avec nos amis. Tu bénis la suite, tu bénis le cœur de chacun et que la paix de Dieu envahisse chaque vie, chaque cœur, je t'en prie, au nom de Jésus.